Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une sombre énigme que Franck Ferrand nous propose d'évoquer aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Bien sombre énigme en vérité. Le 16 octobre 1946, il y a donc 66 ans aujourd'hui, au cœur de la nuit, les dignitaires nazis condamnés à mort lors du procès de Nuremberg doivent être exécutés par pendaison. Ils sont 11 dans ce cas, mais l'un d'eux, le maréchal Göring, a réussi à se suicider au cyanure, vous savez, dans sa cellule. 10 condamnés finalement seront donc conduits aux Trois Potences installés dans un ancien gymnase. L'un des 10, Julius Streicher, compagnon de la première heure d'Adolf Hitler, se conduit sans aucune dignité. Il hurle, il se laisse traîner par les gardiens, il profère des imprécations et lance le cri de « Pourim 1946 ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Eh bien, c'est ce que se sont demandé mes invités d'aujourd'hui.
Vos invités qui sont Bernard Benjamin et Johan Pérez. En partant de cette question, ils ont mis en évidence d'étonnantes coïncidences historiques et c'est ce que raconte leur ouvrage Le Code d'Esther qui paraît en ce jour anniversaire.
Oui, ils vont nous expliquer tout cela tout à l'heure et auparavant, en compagnie de Fabrice d'Almeida, j'aimerais revenir sur ce fait historique majeur qu'a été le procès de Nuremberg.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Autrefois, à l'issue des guerres, on ne jugeait pas les responsables. Les souverains s'entendaient plus ou moins sur un traité de paix. Les vaincus très souvent cédaient des territoires aux vainqueurs. Quant aux horreurs accumulées de part et d'autre au cours du conflit, eh bien, elles étaient considérées comme des aléas terribles, certes, mais inévitables. On évitait même d'en parler. Même en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le célèbre traité de Versailles ne crée pas de juridiction spéciale pour juger les fauteurs de guerre. Il faut attendre 1945 et les crimes très exceptionnels du régime nazi, sans lien direct avec le conflit du reste, pour que les alliés vainqueurs envisagent de juger les criminels du Reich. Faut vous dire honnêtement que Roosevelt n'était pas du tout chaud pour créer cette juridiction, mais c'est Staline qui a beaucoup poussé dans ce sens. Ainsi, les quatre puissances victorieuses entreprennent-elles le 20 novembre 1945 un immense procès qui se veut exemplaire à Nuremberg, qui est la ville de Dürer, certes, mais surtout la cité chérie des nazis, lieu notamment de leur grand rassemblement d'avant la guerre. C'est le 8 août 1945 qu'a été signé à Londres l'accord selon lequel seraient jugés les principaux dignitaires du régime nazi, au nombre de 21 finalement, dont Hermann Göring. Vous savez que Hitler et Goebbels étaient morts, d'autres étaient en fuite. Le 6 octobre, à Berlin, les procureurs signent l'acte d'accusation présentant 4 chefs d'inculpation, plan concerté ou complot, crime contre la paix. Ces deux chefs d'inculpation instruits essentiellement par les délégations anglo-saxonnes, crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont plutôt, pour ce qui est de l'instruction, du ressort des accusateurs soviétiques et français. Précisons que les accusations établissant les responsabilités individuelles de chacun des accusés ont été réparties entre accusateurs américains et anglais. Autant dire que ce qui s'ouvre à Nuremberg fin 1945, c'est un nouveau chapitre du droit international. Le président du tribunal, Lord Justice Sir Geoffrey Lawrence, déclare que ce procès, je le cite, est unique dans les annales de l'histoire juridique mondiale et d'une importance suprême pour des millions d'êtres d'un bout à l'autre du globe. Ce procès s'ouvre donc fin novembre 1945. Nous en parlons dans un instant en compagnie de Fabrice d'Almeida.
Avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec votre premier invité sur Europe 1, Fabrice d'Almeida, historien, professeur à Paris 2 à l'Institut français de presse et auteur notamment de Ressources inhumaines, les gardiens des camps de concentration et leurs loisirs, disponible chez Fayard.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup d'être venu. Alors, le 20 novembre 1945, à 10h du matin, 20 accusés prennent place dans le grand box du tribunal de Nuremberg sous les drapeaux des quatre nations victorieuses. Le 21e, c'était Ernst Kaltenbrunner. Lui est resté hospitalisé puisqu'il avait fait une hémorragie cérébrale. Les débats peuvent commencer, ils vont durer 10 mois et ce sont des débats d'un sérieux et d'une densité exceptionnelle.
Oui, et je crois que ça c'est un point sur sur lequel il faut vraiment insister, c'est un vrai procès. Parce que trop souvent, on dit le procès
de Nuremberg. C'est pas une parodie de justice.
Mais oui, on dit le procès de Nuremberg, c'est le procès des vainqueurs. Il y a eu plein de révisionnistes allemands, d'une certaine manière, qui ont voulu dire dans les années 50, dans les années 60, c'était pas un vrai procès. Si, c'est un vrai procès. Un vrai procès, ça se qualifie par quoi? Il y a un acte d'accusation clair, bien défini. Il y a des juges qui sont censés être neutres. Là, on peut discuter. Et il y a des droits réservés à la défense. Et la défense va pouvoir s'exprimer très fortement à Nuremberg. Et dernier point, le verdict n'est pas connu au moment où le 20 novembre commence le procès.
Ils ne vont pas du tout vers
quoi on s'achemine.
On ne
sait pas qui et on ne sait pas quelles peines vont être attribuées. Et effectivement, à l'arrivée, il y aura des peines différentes. Et on peut dire, on peut discuter, était-elle proportionnée pour tous les accusés? Mais en tout cas, les peines n'étaient pas les mêmes pour tous. Donc, il y a eu vraiment procès.
On peut en dire un mot hein, de ces sentences tout de suite. 11 des accusés seront condamnés à mort par pendaison, 3 à la prison à vie, 4 à des peines qui vont de 10 à 20 ans de prison, et puis 3 sont acquittés, le docteur Schacht, l'ancien ministre des Finances, le chancelier von Papen et Hans Fritzsche, qui était donc l'adjoint de Goebbels. Mais ce qui est intéressant de préciser tout de suite, c'est le ministère de la Propagande, c'est que ces 3 hauts dignitaires, eux, sont acquittés par le tribunal de Nuremberg, mais quelques semaines plus tard, ils passent toujours à Nuremberg, d'ailleurs, devant le tribunal de dénazification qui va les condamner chacun à plusieurs années de prison.
Oui, alors en même temps, la question qui se pose, c'est que par rapport au procès de Nuremberg, le procès de Nuremberg, il faut bien voir qu'il a, il a un enjeu qui est un peu différent de celui que nous pouvons avoir en tête aujourd'hui. L'idée de ce tribunal et de ce procès, c'est d'abord de montrer qu'il y a eu complot international contre la paix. C'est-à-dire que c'est vraiment un procès sur la guerre au départ. Tout à l'heure, vous parliez, Franck Ferrand, de l'idée de faire un procès au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle a été évoquée, elle a été très fortement évoquée.
Bien sûr,
on voulait mettre Guillaume II en accusation parce qu'on considérait que l'Allemagne était responsable de la guerre.
Mais les Allemands étaient partis se réfugier à Dorn tranquillement aux Pays-Bas. Hein.
Mais les Allemands avaient un système de défense qui consistait à dire nous avons déclaré la guerre à la France et à l'Angleterre parce que les Russes mobilisaient. Les Russes disent nous avons mobilisé parce que les Autrichiens avaient fait un ultimatum à la Yougoslavie. Et la Yougoslavie disait nous avons été obligés de nous défendre d'une certaine manière parce qu'on nous accusait d'avoir tué l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Donc là, pour le coup, on veut juger le problème de la paix et de la guerre. Et ça, ceux qui ne sont pas au moment du déclenchement de la guerre aux affaires, c'est le cas de von Papen, eh bien, on peut les exempter de responsabilité.
Paradoxalement, à l'issue de la Première Guerre mondiale, ce sont plutôt les Américains qui seraient favorables à une juridiction. Et alors qu'en 1945, le président Roosevelt, au début, ne veut pas en entendre parler, finalement, donc, les Américains sont quand même ceux qui organisent cette espèce de grand tribunal. Et je dis cette espèce, n'y voyez bien sûr aucune forme de ce n'est pas un terme péjoratif, mais c'est un tribunal nouveau, d'un genre nouveau, voilà ce que j'aurais plutôt dû dire. Et ce qui est très important, c'est que la procédure anglo-saxonne, plutôt anglaise qu'américaine d'ailleurs, va primer dans l'organisation des débats et dans leur déroulement. Ce qui d'ailleurs désarçonne les accusés allemands, il faut bien le dire.
Oui, ça les désarçonne, et ça les désarçonne d'autant plus qu'on leur demande au départ de plaider coupable ou non coupable. Ce qui est une question qui peut paraître assez absurde dans une procédure accusatoire. Mais l'idée, c'est quand même au début de savoir qui endosse ses responsabilités ou pas et d'avoir clairement en tête les enjeux. Et ça, c'est une question fondamentale qui fait que certains vont comprendre très peu, en fait, qu'il y a pas seulement une responsabilité immédiate par rapport à ce qu'ils risquent eux, mais une responsabilité historique. Alors, je vais prendre deux exemples un peu contradictoires très vite. Hermann Göring. Hermann Göring, lui, il pense à la responsabilité face à l'histoire, mais il la pense vue du point de vue nazi. C'est-à-dire qu'il pense que le nazi, c'était bien. Le nazisme, c'était bien. Et donc, il veut montrer que ce qu'ils ont fait, c'était bien. Qu'ils ont été des vrais combattants, qu'ils ont essayé de redresser l'Allemagne et qu'ils ne sont pas plus responsables de la guerre que les autres, etc. Il faut bien rappeler que pendant toute la guerre, l'Allemagne dit « nous ne faisons que nous défendre ». Donc il reste dans cette optique-là. Il dit en gros, ils envahissent l'Autriche, c'est pas leur faute. Il le fallait, ils envahissent la Tchécoslovaquie, c'est pas leur faute. Et c'est pareil pour la France. D'ailleurs, je vous rappelle, en 1939, c'est la France et l'Angleterre qui cette fois déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc ils sont dans cette optique de guerre défensive. Donc là, c'est un aspect qui est très important et Göring va tout nier au nom de cette supériorité du nazisme. Et l'autre, celui qui va reconnaître la responsabilité au regard de l'histoire, c'est Speer. Qui lui dit OK.
Albert Speer.
Voilà,
oui.
Albert Speer, qui est l'un des favoris de Hitler, le grand architecte du Troisième Reich. Oui. Et en même temps, on l'oublie trop souvent, le ministre des fournitures de guerre. Donc celui qui va être responsable de plusieurs camps de travail. Celui qui va être responsable du pillage de l'Europe dans la deuxième partie de la guerre. Donc cet homme-là, à Nuremberg, fait une espèce de mea culpa. Il dit non, je veux bien admettre ma responsabilité. Je veux bien admettre, y compris sur les crimes les plus graves du régime. Et il ne va pas chercher comme d'autres, comme Keitel, par exemple, le chef d'état-major, à dire... je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Et ça, ça va énormément marquer les juges, parce que ce qui en est un qui reconnaissent sa responsabilité, met en cause tout le système des autres dans leur défense de dénégation complète et de déresponsabilisation. Et ça, ce sont deux stratégies différentes, mais en même temps qui ont toutes les deux comme vision l'histoire, le jugement futur.
Alors, qui les appliquait, ces stratégies? Comment étaient défendus ces accusés? Et quel a été le retentissement de ce procès à l'époque même, en 1945 et 1946? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Novembre 1945, c'est précisément à Nuremberg, dans la ville symbole du nazisme, que les Alliés installent leur tribunal international chargé de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. L'un après l'autre, les accusés répondent à la question « coupable ou non coupable ?» Hermann Göring, non coupable. Karl von Ribbentrop, non coupable. Wilhelm Keitel, non coupable. Julius Streicher, non coupable. Rudolf Hess, non coupable.
Voilà quelques, on peut dire que ce sont les premiers commentaires du très beau documentaire de Frédéric Rossif, de Nuremberg à Nuremberg, où il est question non seulement du procès, mais de tout ce qui l'a précédé, évidemment. Alors, Fabrice d'Almeida, je me demandais qui étaient les avocats des accusés et des organisations aussi, il faut le dire, parce que on met en cause la Gestapo, la SS, enfin, etc., bien sûr. Hein.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a les accusés dont nous avons parlé tout à l'heure, les 21 accusés individuels, et il y a 4 organisations qui sont mises en accusation, et il se trouve d'ailleurs qu'il y a un des avocats d'une de ces organisations, Servatius, qui est aussi l'avocat d'un des accusés. Servatius, c'est celui qui est censé défendre l'institution du parti nazi.
Ce sont des Allemands
NSDAP.
Même.
Ouais, ce sont des Allemands, et ce sont en général des gens qui sont malgré tout relativement proches, sinon intellectuellement, du moins générationnellement, de ceux qui sont accusés.
Et même si certains ont été résistants allemands, etc., il faut le dire.
Mais ils jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils jouent le jeu, ils mettent une crédibilité. Ils essayent de montrer tous les coins qui sont possibles.
C'est leur métier.
Et de défendre. Alors, le plus dur, c'est pour un monsieur qui s'appelle le docteur Pekelmann, qui est le défenseur de la SS. Parce que comment défendre la SS? Et il va même trouver des gens prêts à mentir. C'est-à-dire qu'il va faire interroger notamment un commandant de camp qui va dire un mensonge, c'est-à-dire que la plupart des commandants de camp ne sont pas membres de la SS, qu'en réalité, ils venaient du programme T4. Or, c'est faux, parce que nous le savons aujourd'hui, on a pu reconstituer les carrières de ces gens-là. Tous ces dirigeants de camp, tous ces responsables de camp sont du pur produit de la SS, et même mieux, sont du pur produit du top de la SS, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les SS Totenkampfverband. C'est Totenkampfverband, c'est-à-dire les SS à tête de mort. Ce sont les unités qui avaient été mises en place à partir de 1934 pour gérer le système concentrationnaire et qui ensuite, pour certaines, vont être mises dans la Waffen-SS. Donc on est là avec le cœur du nazisme et on essaie de défendre cette institution. La SS est condamnée. Une institution en réchappe, la Wehrmacht. Résultat, aujourd'hui, il y a encore des gens pour dire que la Wehrmacht a fait une guerre propre. Or, c'est faux. La Wehrmacht a contribué à faire des massacres de masse dans toute l'Europe de l'Est. La Wehrmacht brûle des villages en Biélorussie, fait des massacres en Ukraine et soutient le travail que vont faire les Einsatzgruppen. Donc ça, il faut bien le dire, il faut bien se mettre dans la tête. C'est pas parce qu'à Nuremberg, ils n'ont pas été condamnés que ce sont des saints.
Mais ce que vous pointez là du doigt, Fabrice d'Almeida, c'est précisément l'une des lacunes de ce procès de Nuremberg. C'est-à-dire que c'est à double tranchant dès qu'on fait un procès. Il y a des condamnations, mais il y a aussi des acquittements par définition.
Eh bien oui, mais en même temps, c'est ça qui fait le procès. Parce que là, pour le coup, imaginons que toute personne qui rentrait dans le procès de Nuremberg ait été obligatoirement condamnée, que toute institution obligatoirement condamnée, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice et qu'il n'y a pas de proportion. Ça veut dire qu'en gros, tous les actes se
valent. Ça n'aurait pas déplu aux soviétiques, je pense, en l'occurrence.
Oui, mais c'est là où. Alors ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même sur l'option est-ce qu'on fait un procès ou pas. Au départ, Staline, il ne veut pas de procès. Au départ,
des condamnations.
Parce qu'il sait que Churchill ne veut pas de procès. Lui, il veut carrément des exécutions.
Oui, c'est ça.
Le débat qu'il va y avoir entre Churchill et Staline, c'est le nombre de condamnations. Churchill, il pense quoi? 200, 250, 500 personnes à exécuter. Staline, il en veut 50 000. Donc le résultat, c'est que, évidemment, à ce moment-là, ça va faire basculer vers le procès, parce qu'on sait que dans le procès, forcément, on n'ira pas aussi loin.
Alors ce défilé, on peut dire, d'abord d'experts, puis de témoins, va beaucoup
intéresser. Des témoins qui sont, pour certains, des criminels, mais gravissimes. Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz, qui ensuite devient le superviseur de l'inspection générale des camps de concentration. Cet homme...
Il est cité là comme témoin.
Il vient comme témoin et il décrit la politique d'extermination. Il décrit la politique d'extermination le matin. On déjeune et l'après-midi, qui doit venir témoigner pour la défense, pour défendre l'idéologie nazie? Rosenberg, le doctrinaire du parti. Et Rosenberg, dans l'intervalle, dit « je crois que ça va être difficile ». Il y a le sentiment que ça va être difficile, oui, après ça, de défendre l'idéologie. D'autres, comme Otto Ohlendorf, hein, un des chefs des Einsatzgruppen, viennent d'écrire les liquidations. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a eu un travail. Et autre travail phénoménal, on projette des films. On projette des films où on montre les installations.
Parce que parmi les témoins qui défilent, évidemment, il n'y a pas que les bourreaux, loin de là. Il y a beaucoup de victimes aussi. Hein. Donc, et la presse se fait l'écho constamment de ce qui est dit pendant le procès.
Oui, parce que le procès, il est pensé aussi comme un procès pédagogique. Il faut qu'il ait une portée éducative. Et à Nuremberg, on va avoir des témoignages extraordinaires.
La France va jouer un rôle important de ce point de vue.
De Gaulle-Antonio, qui vient témoigner pour Ravensbrück. Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui vient témoigner pour parler notamment d'Auschwitz. Juste une chose, hein, parce qu'il faut pas avoir faut pas se tromper. Hein. J'ai dit tout à l'heure, c'est un procès pour montrer le complot contre la paix. Il y a aussi toute la notion de crime contre l'humanité. Et au fond, cette notion de crime contre l'humanité, elle se décline avec la politique d'extermination et aussi la mise en esclavage des populations européennes. Juste un chiffre pour qu'on ait à peu près l'idée de ça. Il y a un organisme qui est chargé de collecter tous les gens qui ont été déportés par l'Allemagne, déplacés ou travailleurs forcés. On a 27 millions de fiches collationnées par la Croix-Rouge dans le centre de Bad Arolsen. Donc c'est juste pour qu'on ait l'idée du mouvement colossal de population que ça a été pour l'Europe.
13h30 sur Europe 1, place maintenant effectivement à votre récit, Franck.
L'année dernière, en 2011, est mort à l'âge de 103 ans Sacha Simon, qui a longtemps été le correspondant du Figaro à Moscou, grand journaliste que connaissent bien les aînés de cette profession, et qui s'est trouvé être un des journalistes français envoyés à Nuremberg pour tenir le compte-rendu de ce procès de Nuremberg, et qui en plus a été désigné par le sort pour faire partie des 8 journalistes qui assisteraient aux exécutions, aux fameuses pendaisons du 16 octobre 1946. C'est le mardi 15 octobre 1946 que les 8 journalistes furent convoqués dans le bureau du colonel Andrews à 8h du soir, écrit-il. On nous fit visiter la prison en attendant les exécutions qui devaient avoir lieu à minuit. Aucun des détenus n'avait été avisé du sort qui l'attendait cette nuit même. Et là, on voit Sacha Simon décrire en fait chacun des détenus et l'attitude assez différente que les uns et les autres peuvent avoir dans leur cellule et qui d'ailleurs traduit exactement l'attitude qu'ils avaient eue pendant le cours des débats à l'intérieur du box des accusés. Certains s'étaient montrés un peu plus sûrs d'eux que d'autres, mais d'une façon générale, tous ces bourreaux devant l'éternel, tous ces grands dignitaires du Reich, s'étaient montrés assez piteux et extrêmement effacés, et extrêmement l'ombre d'eux-mêmes, si je puis dire, pendant ces procès. J'aimerais insister sur le témoignage de Sacha Simon à propos de Julius Streicher, puisque c'est lui dont nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission. En tout cas, c'est à partir de son cas que nous allons évoquer le Code d'Esther, cet ouvrage de Bernard Benyamin et Johann Pérez. Julius Streicher, l'ex-Gauleiter de Nuremberg, écrit Sacha Simon, qui avait haï les Juifs à un point incroyable. Effectivement, il a été l'un des grands idéologues de l'antisémitisme et il a beaucoup inspiré Hitler de ce point de vue. Eut une fin bruyante, écrit notre correspondant sur place. Dès son entrée, il proféra des phrases incohérentes d'une voix qui allait crescendo. Heil Hitler, cria-t-il à l'officier qui lui demandait de décliner son nom. Il a été le seul à avoir peur de la mort ou en tout cas à le faire voir. En montant les marches, il cria d'une voix de tête stridente, désespérée, « Et maintenant je vais à Dieu, c'est Pourim, la fête juive. Maintenant, adieu, et vous aussi les bolcheviks vous prendront, et ce sera justice. » Figés au garde-à-vous, les témoins de cette scène hallucinante étaient impassibles, écrit Sacha Simon. Ce n'est que lorsqu'il sentit la cagoule noire sur sa tête qu'il eut un soupir humain, un tendre appel « Adel, meine liebe Frau, ma chère femme », dit-il. Et donc, on a pendu Julius Streicher comme les autres. J'avais beau évoquer intensément le cortège de morts, asphyxiés, assassinés, brûlés, fusillés, éventrés, morts de faim, morts du typhus, morts de désespoir, écrit encore Sacha Simon, j'avais beau amasser dans mon cœur assez de courage pour voir pendre 1000 criminels nazis, à la seconde même où la corde se tendait sous le poids de l'un de ces monstres incohérents, je n'éprouvais plus de haine. Par la mort, ils se libéraient de ces crimes, il n'y avait plus devant nous qu'un pendu banal. C'est que, sans doute, ajoute le journaliste français, je n'avais pas assez souffert durant la guerre pour avoir de suffisantes réserves de haine. Mais il conclut, et il faut insister sur cette conclusion. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1946, dans la cour de la prison de Nuremberg, il s'est accompli non pas un geste de vengeance, mais bien un acte de justice.
De la bande originale du documentaire de Nuremberg à Nuremberg, Franck.
Nous étions en train, avec Fabrice d'Almeida, de dire que ce texte de Sacha Simon, qui donc nous a quittés à 103 ans il y a
remarquable.
Très peu de temps, est un beau texte. Oui, encore, je
remarquable.
Ne l'ai cité là que ce qui concernait Julius Streicher. Un cas assez particulier quand même, Streicher.
Oui, le responsable du Sturm, d'un très grand journal antisémite. Vous l'avez dit, doctrinaire, c'est aussi le spécialiste de l'injure, du coup de propagande. Passablement aviné, il faut quand même le dire, un peu hystérique. Donc c'est une figure qui fait penser à ces nazis un peu vulgaires, parce que c'est aussi ça, c'est ce mouvement, il est une espèce de composite entre des gens qui sont issus de l'aristocratie, hein, il faut le dire, hein, un Ribbentrop par exemple, c'est de la noblesse, certes récente et aussi par alliance, mais c'est de la noblesse. Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement ces hommes
peuple,
nouveaux,
hein, oui.
Voilà, qui sortent de la petite bourgeoisie, du bas des classes moyennes, et qui sont des homines novi, comme on dirait sous l'Empire romain, hein, des gens qui du jour au lendemain, en 10 ans, partent de rien et se retrouvent au sommet.
Connaissent une ascension comme on a pu en connaître au moment de la Révolution française ou de l'Empire en France, par exemple. Hein. Mais
oui.
Là, ça a été encore plus rapide, d'ailleurs, avec le Troisième Reich.
Et accéléré par la violence politique,
oui.
Parce qu'ils éliminent une grosse partie de la classe politique, ils éliminent une grosse partie de la classe intellectuelle, financière, et donc ils prennent les postes et ils veulent s'en servir pour s'enrichir aussi. Parce qu'il faut bien dire, hein, on oublie ça, hein, être nazi à la fin du Troisième Reich, c'est être un homme riche.
Eh oui, bien sûr.
Quand on est au sommet de ce parti.
Et dans le cas d'un éditeur comme Streicher, particulièrement,
effectivement,
évidemment.
Effectivement.
Lui a d'ailleurs beaucoup profité, évidemment, de Mein Kampf. Hein, de
alors, Mein Kampf, c'était l'autre, c'était Eher Verlag,
oui,
c'était
oui.
une autre maison d'édition. Mais c'est surtout Hitler qui a bénéficié des droits d'auteur de Mein Kampf, hein, puisque le livre est vendu, alors on discute, mais entre 10 et 15 millions d'exemplaires, certains disent autour de 20 millions d'exemplaires, mais c'est des achats obligatoires, hein, il est distribué. Donc c'est effectivement ça. Ce qu'il y a peut-être pour finir sur le cas Streicher et cette situation sur laquelle vous allez déboucher, Nuremberg, c'est que effectivement Nuremberg, d'une certaine manière, est un peu la fin de quelque chose. C'est la fin de cette guerre, c'est la fin du Troisième Reich, mais en même temps c'est le début d'autre chose et de quelque chose qui est fondamental pour nous. Et c'est pour ça que je suis très attaché à ce procès. C'est le début d'une réflexion sur une justice qui puisse toucher les individus où qu'ils soient, quel que soit le pays et quel que soit le niveau où ils agissent. Au fond, c'est le moment où on va définir le crime contre l'humanité et c'est cette même notion qui va permettre de mettre en place la Cour pénale internationale et de poursuivre les criminels du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie et éventuellement tous les autres génocidaires, y compris peut-être dans des pays du Moyen-Orient.
Alors, grâce à vous, Fabrice d'Almeida, nous sommes arrivés à notre époque. Vous nous avez présenté ce procès de Nuremberg en quelque sorte comme l'antichambre des temps nouveaux. Nous allons, si vous le voulez bien, faire un très grand, très très grand pas en arrière et nous replonger aussi dans la Bible et dans l'Ancien Testament avec nos invités maintenant, Bernard Benyamin et Johan Pérez, auteurs du Code d'Esther. Et si tout était écrit, c'est édité chez First. Merci beaucoup, Fabrice.
Merci beaucoup, Franck
d'être
Ferrand.
Venu.
Très bien.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, le journaliste Bernard Benyamin, co-auteur avec Johan Pérez du livre Le Code d'Esther et si tout était écrit, disponible chez First Edition. D'ailleurs, ce livre sort aujourd'hui.
Et oui, je dois à notre ami Roland Pérez de m'avoir indiqué ce livre et je peux vous dire que j'ai passé un moment incroyable parce que c'est exactement comme ces grands romans policiers américains. Vous savez, vous partez dans une espèce de dédale, de labyrinthe extraordinaire à travers des sources, des témoignages, des rencontres tous plus étonnants les uns que les autres. Et puis, vous débouchez sur des vérités historiques, alors récentes pour ce qui est du procès de Nuremberg sur lequel nous nous sommes un peu attardés avec Fabrice d'Almeida, et beaucoup plus anciennes puisqu'on y parle du livre d'Esther, on y parle des origines même de cette fête juive de Pourim. Il faut que vous nous expliquiez, Bernard Benyamin, comment vous êtes venu à vous intéresser à cette question.
C'est une très bonne question que je me suis longtemps posée moi-même. L'histoire est très simple et elle rejoint la thématique du livre. Les premiers mots du livre, c'est « Croyez-vous au hasard ?» Les derniers, « Croyez-vous toujours au hasard ?» C'est le hasard. Ma mère venait de mourir et donc, comme tout bon fils juif, pour hâter l'arrivée au ciel de son âme, les enfants doivent dire ce qu'on appelle le kaddish. On a l'habitude de dire c'est une prière des morts, en fait c'est une prière de glorification à Dieu. 3 fois par jour. Et donc je me suis retrouvé dans une synagogue.
Oui, vous ça vous a ramené à la synagogue en quelque sorte
parce que vous n'êtes pas très pratiquant. Oui, moi je suis plutôt juif laïque, bardé de certitudes universitaires, rationalistes, etc. Et je suis entré donc dans cette synagogue tout près de chez moi. Je me suis assis à une place, j'ai su plus tard qu'elle était celle de Johan, qui est présent à côté de nous. Et pendant 15 jours, 3 semaines... J'allais 3 fois par prière avec ce kaddish en araméen qui coulait de ma bouche comme des rochers dans un ruisseau. Et à côté de moi, il y avait Johan qui me disait formidable, très bien, super. Au bout de 15 jours, j'étais devenu aussi fort que les grands prêtres de Babylone, je crois. Et c'est à ce moment-là que Johan m'a dit, j'ai une histoire sur laquelle je travaille depuis 4 ans. Moi, je vous connais. Vous me connaissez pas. Mais si cette histoire vous intéresse, on peut travailler ensemble. Et c'est ce qui s'est passé.
Bonjour Johan Pérez.
Bonjour Franck.
Alors vous étiez extrêmement plongé dans cette histoire, vous la connaissiez par cœur, et vous avez en quelque sorte, au début du livre, on comprend très vite ce qui se passe, je rassure nos auditeurs, mais au début du livre, on a presque l'impression que vous manipulez un peu Bernard Benyamin, vous l'envoyez ici, vous l'envoyez là, vous le laissez faire la découverte tout seul, et la première des destinations, c'est Nuremberg, précisément.
Nuremberg, c'était un peu le lieu où tout a démarré. Donc moi j'avais fait un peu ce parcours initiatique pendant 4 ans, puisque j'ai vraiment travaillé pendant 4 ans sur ça. Et pour moi il était logique que si quelqu'un reprenait le dossier, il fallait qu'il ait refranchi les mêmes frontières et qu'il ait eu les mêmes impressions pour savoir si j'avais un peu amplifié des choses, si j'avais amplifié des ressentis ou si les choses que je sentais pouvaient être senties par tout le monde. Donc j'ai envoyé un peu Bernard, sans trop le manipuler, mais sans trop lui dire beaucoup de choses, en lui disant va là où j'étais, ressens, écoute, entends, recherche, et si tu tombes sur les mêmes choses que moi, c'est que c'est forcément quelque chose qui est viable, puisque ta formation fait que t'es journaliste et que t'es cartésien, et on verra à ce moment-là comment on peut confronter nos avis et qu'est-ce que ça donnera ça. Et ça a été à peu près le départ de notre enquête et de notre histoire et de notre rencontre.
Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'au moment de son exécution, Julius Streicher avait fait allusion à la fête de Pourim. Il a dit « c'est Pourim 1946 ». De quoi s'agit-il ? Il faut que vous expliquiez à tous nos auditeurs qui ne connaissent pas cette fête.
C'est le début de l'enquête. C'est-à-dire, pourquoi fait-il référence à cette fête qui, du reste, ne se passe pas du tout au mois de septembre,
non,
octobre,
au début
plutôt
printemps,
février,
en fait,
mars, etc. Pourim vient d'un livre, d'un rouleau, qui s'appelle le rouleau d'Esther. On va aller très très vite. Le roi Assuérus règne donc sur le royaume en Mésopotamie.
Il cherche. Disons peut-être juste avant d'entrer dans le détail de l'histoire et d'Assuérus et d'Aman, etc. Disons qu'il s'agit d'un livre à part tout de même.
Hein. Oui, le livre est très particulier. Voilà. Le livre d'Esther est très particulier. D'abord, c'est le seul livre de la liturgie juive dont l'héroïne est une femme.
C'est ça.
La deuxième chose, c'est que c'est un livre où Dieu n'apparaît pas. On a eu l'habitude de voir Moïse fendant les flots de la mer Rouge, etc. Là, rien. Il n'y a pas Dieu. Les érudits, les gens qui étudient vraiment, disent qu'on est en présence d'un Dieu caché. C'est-à-dire, lorsque Esther s'adresse au roi, qu'elle lui dit Assuérus, c'est Assuérus qui répond. Si elle lui dit « Ô roi des rois », c'est Dieu qui répond.
Donc un texte à plusieurs, comme tous les textes sacrés du reste, mais à plusieurs détentes, avec plusieurs niveaux de lecture et
absolument,
peut-être même des codes.
Oui. Juste troisième particularité, pour tous les érudits depuis le Moyen-Âge, lorsque la nuit des temps arrivera, il restera une fête, c'est celle de Pourim, et un livre, c'est le rouleau d'Esther. Pourquoi ? Personne n'en sait rien, mais il le pressente. Et pour rebondir sur ce que vous dites, il y a dans ce rouleau d'Esther un code très particulier, fait de petites lettres et de grandes lettres, sur lesquelles ont buté des générations de rabbins et d'érudits, que nous avons réussi, nous, avec l'aide d'un certain nombre de gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, il y a un code et il y a un anachronisme. L'anachronisme est très simple, c'est que lorsque les fils d'Aman, on pourra y revenir, sont pendus, le lendemain, Esther va voir le roi qui lui dit « fais un vœu, je l'exaucerai immédiatement », et Esther lui dit « je voudrais qu'on pende les fils d'Aman », alors qu'ils ont été pendus la veille.
Alors il faut que nous expliquions maintenant qui sont Assuérus, Aman et un peu cette histoire.
3e siècle avant Jésus-Christ, Assuérus règne sur la Perse, le royaume des Perses et des Mèdes. Il veut une nouvelle reine, il va choisir Esther qui est accompagnée de son oncle Mardochée. Tout se passe bien sauf que Assuérus a un premier ministre qui s'appelle Aman. Aman a une particularité, il adore qu'on se prosterne devant lui. Tout le monde y va de sa prosternation sauf un homme, Mardochée, qui lui pense qu'on ne peut se prosterner que devant Dieu. Il entre dans une grande colère à l'égard de Mardochée et il décide, ce fameux Aman, premier ministre Assuérus, il décide du jour au lendemain que tous les juifs du royaume doivent être tués. Aman est le premier inventeur de la solution finale. Mardochée, apprenant cela, va voir sa nièce, il dit « va voir le roi » et raconte-lui ce qui se trame. Elle va voir Assuérus, elle lui raconte le complot.
Esther fait preuve d'un grand courage. C'est
une héroïne extraordinaire. Assuérus apprend le complot ourdi par son premier ministre et décide que les potences qui avaient été dressées pour pendre tous les juifs du royaume serviront à pendre Aman et sa descendance. C'est le début de la fête, c'est-à-dire que les juifs à ce moment-là sortent dans les rues, font des gâteaux, s'amusent, font de la musique. C'est la fête de Pourim.
Donc là, on comprend directement l'allusion qu'a pu faire Streicher à Pourim.
Alors on se dit effectivement, d'abord ça veut dire qu'il connaissait le texte, ce qui est déjà un élément très intéressant. Deux, ça veut dire qu'effectivement, il pense que puisqu'il va mourir, les Juifs vont être contents. Mais il y a peut-être autre chose.
Et voilà. Mais on ne dira peut-être pas tout, parce qu'il faut donner à nos auditeurs envie d'aller se plonger eux-mêmes dans cet extraordinaire parcours. Le Code d'Esther, et si tout était écrit, c'est édité chez First.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec vos invités Franck, jusqu'à 14h sur Europe 1, le journaliste Bernard Benyamin et le réalisateur de télé Johan Perez.
Nos auditeurs connaissent bien Bernard Benyamin puisqu'il a présenté pendant très longtemps sur Antenne 2 puis sur France 2 Envoyé spécial avec Paul Nahon. C'est bien le même Bernard Benyamin dont nous parlons aujourd'hui et c'est lui qui a été avec Johan Perez. Comment pourrait-on dire ? Vous avez été le pèlerin de cette affaire, vous êtes allé sur place, vous avez rencontré énormément d'érudits juifs, vous rencontrez des rabbins qui connaissent par cœur évidemment toutes ces...
Je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai essayé de mettre, j'allais dire, au profit d'une information historique, le procès de Nuremberg, au profit d'une information religieuse et historique, Esther, l'enquête, l'investigation et le terrain. J'ai vraiment essayé d'avoir toutes les armes du journalisme pour enquêter là-dessus. Et le résultat, c'est le Code d'Esther.
Alors vous êtes allé, donc on a dit à Nuremberg, à Landsberg, ça c'est très intéressant ce passage-là, parce que là on voit les origines de ce...
La Bavière.
De cet écrit terrible de Mein Kampf. Et puis vous êtes allé à Jérusalem.
Bien sûr.
Il y a des pages absolument magnifiques. Je ne veux pas trop déflorer le livre, hein, parce qu'il faut...
Vous avez raison,
Franck. Vous y entrer. Et vous rencontrez des personnalités incroyables. Et là, on se dit, Johan Perez, qu'il y a dans cette religion juive des érudits comme on n'en trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment, ce sont des temples de culture, ces gens. Ils savent tout.
Vous savez, on a la vocation de nous appeler le peuple du livre.
C'est ça, hein.
Et c'est évident que la transmission s'est fait beaucoup à l'oral et ça a donné lieu à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on prend un livre saint, non seulement on a la première lecture historique, mais on va avoir à côté, sur les marges, les commentaires, des commentaires, des commentaires. Et on va traverser comme ça des siècles et on va voir chaque personne qui a apporté quelque chose ou une lecture ou une vision ou un regard nouveau va apporter, évidemment agrégé de tous et reconnu de tous, va apporter quelque chose de plus encore à l'ouvrage. Donc c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit n'a pas été encore fini puisque chacun y apporte sa pierre. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette quête du Code d'Esther, parce qu'on a fait à peu près la même chose que ce qu'ont fait les gens 6000 ans avant nous. C'est-à-dire qu'on est parti d'un écrit, le rouleau de la Megillah. On est parti d'une première quête qui a été la mienne pendant 4 ans, sur laquelle j'ai vraiment cherché, rencontré, tourné à travers le monde. Et puis j'ai décidé de dire, allez, j'oublie tout ce que j'ai fait. Je mets tout ça dans un placard et je demande à quelqu'un d'autre qui a un regard neuf de refaire la même chose que moi, de refaire un même parcours initiatique. Et on va voir ce que lui va apporter de nouveau ou qu'il va apporter de complémentaire par rapport à ça. Et on se retrouve à collecter un certain nombre d'informations. Et la fusion de ce type d'informations va donner ce que donne le Code d'Esther, c'est-à-dire Voilà. Après,
alors c'est... le livre, en plus, est un livre de la nouvelle génération. Alors moi, tout ça me laisse toujours un peu pantois. Je vois que ça sourit pas mal en régie. Mais il y a des QR codes pour les smartphones qui permettent de renvoyer à des enregistrements ou à des éléments. On va écouter d'ailleurs un des documents que vous proposez dans cet ouvrage hypertextuel.
Voici Hermann Göring, qui semble flotter dans son uniforme bleu-gris. Il y a quelques semaines, cet homme faisait trembler l'Europe. Il sera condamné à mort. Et puis voici surtout Julius Streicher. Regardez-le bien, écoutez sa voix.
Zweitens. Vor Beginn dieses Prozesses erhielten die Angeklagten.
Il sera lui aussi condamné à la pendaison. C'est lui qui est à l'origine de cette enquête et du livre que vous avez entre vos mains.
Alors donc, un livre qui se lit là aussi. Vous parlez d'un message à plusieurs niveaux, Bernard Benjamin, mais le livre a plusieurs niveaux de lecture également.
C'est un peu ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire que aussi bien sur le fond, ce livre n'est pas tout à fait comme les autres.
Vous voulez créer une communauté des lecteurs de...
Sur la forme, il se trouve effectivement que ce qu'on vient d'entendre, effectivement, ça vient derrière le passage sur le procès de Nuremberg. On a à notre disposition des images en noir et blanc avec la voix Streicher en chair et en os. C'était trop dommage de ne pas s'en servir. Et alors qu'on a l'habitude de faire une espèce d'opposition terrible entre le livre papier et puis le livre numérique, là c'est le mariage parfait puisqu'on a un livre papier avec des QR codes qui, grâce à votre smartphone, vous emmène. Mais c'est complètement magique. C'est magique ce truc.
Non, mais essayez, je vous promets que je vais faire l'essai dès cet après-midi. Et ce qui était bien quand j'ai reçu les bonnes feuilles au début, c'est que moi j'avais pas ces icônes.
Bah oui, j'ai bien compris.
Ils sont arrivés depuis, évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans ce livre d'Esther une véritable dimension prophétique, Bernard Benjamin?
Oui, c'est difficile, effectivement, c'est difficile, puisque je vais dire au fur et à mesure que l'on approche de l'enquête, qu'il y a, on va rien dévoiler, mais disons qu'il y a une bonne dizaine de hasards, de coïncidences, appelez cela comme vous voudrez, sur un même événement. Et lorsque vous avez cette accumulation de hasards et de coïncidences...
Plus on tourne les pages et plus on se dit, mais enfin, c'est incroyable, c'est vrai que ça finit par faire un énorme faisceau. Hein,
on sort un peu groggy de tout ça et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut en penser? Traduction? Dieu existe ou pas? Alors on n'a pas la prétention de résoudre cette question essentielle et capitale. C'est extrêmement troublant. Voilà. Moi je peux pas aller au-delà.
Oui, et la façon dont vous le racontez est assez saisissante, évidemment. C'est un ouvrage assez spectaculaire, disons-le. Vous savez distiller le suspense peu à peu, on se promène avec vous et on découvre peu à peu. Alors que vous saviez tout à l'avance, si je puis dire, Johan Perez.
J'avais 4 ans d'avance.
Vous aviez 4 ans d'avance. Et vous aviez fait le même chemin? Vous étiez allé rencontrer les mêmes personnes? Alors,
j'en ai rencontré un peu plus parce que j'ai comme toute chose, hein, quand on commence à baliser un chemin, on a tendance à aller un peu sur tous les horizons et puis après on se resserre. Donc j'ai rencontré beaucoup plus de personnes, mais je pense que ça ne méritait pas de lui faire deux fois le tour du monde pour rencontrer les gens. Donc on l'a un peu simplifié pour l'aider, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens. Ça a été une vraie richesse personnelle de rencontre. Je vous dis, j'ai rencontré, il n'est pas dans le livre, mais j'ai rencontré par exemple le chauffeur d'Adolf Hitler, qui est aujourd'hui, hélas, quelqu'un qui n'a rien à faire de ses journées, qui est triste parce qu'il n'a pas été condamné à Nuremberg, donc il n'a pas de statut, enfin il n'a rien de tout. Bon, qui n'a aucun intérêt dans notre ouvrage, mais voilà, on a rencontré beaucoup, 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 beaucoup de gens. Bon, et après, il y a des gens qui étaient intéressants, des gens qui étaient moins, mais en tout cas, ça a été vraiment 4 ans où ça a été une richesse. Et voilà.
Quand vous avez rencontré Bernard Benjamin, vous avez tout de suite su que ce serait lui par qui le livre allait advenir?
J'avais travaillé pendant 4 ans sur un projet, ce projet avait du mal à se concrétiser. J'ai dit, voilà, il faut que j'ai le regard de quelqu'un de différent, de se dire, est-ce que je me suis trompé pendant 4 ans? Est-ce que je me suis trompé? Ou est-ce que vraiment c'est un bon sujet? J'ai une formation quand même à normalement déceler quand même des bons sujets, à savoir les développer. Je lui ai donné toutes mes recherches, enfin une grosse partie de mes recherches. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux lire mon script? Enfin mes premières pages, etc. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Et quand il l'a lu, il a été un peu stupéfait. Et au début, je pense même qu'il a dû se dire, attends, il exagère, j'y crois pas trop. Il a dû un peu forcer les traits. Et après, je lui ai dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Fais juste un tour à Nuremberg. Et voilà.
Et c'est donc la mort de votre mère qui vous a amené à cette affaire, Bernard Benyamine, et vous lui rendez un hommage magnifique quand vous la montrez, racontant elle-même cette histoire d'Esther au moment de la fête de Pourim. C'est un des très beaux moments de ce livre. Bernard Benyamine avec Johan Pérez, Le Code d'Esther. Et si tout était écrit, c'est publié chez First Edition et ça sort aujourd'hui, ce 16 octobre, 66e anniversaire de l'exécution des condamnés du procès de Nuremberg.